Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir au micro de la web radio LFIP Live M. Gourdeau Montagne, ambassadeur de France en Chine. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre lycée.
Bonjour à tous.
Trois élèves de 4e, Mélane, Adèle et Paul.
Merci à tous les trois de m'accueillir. Je suis très content de vous voir, et de vous revoir même.
Alors, vous étiez présent lors de la pose de la première pierre du lycée en octobre 2014, puis le 16 mai 2016 lors de son inauguration. Quelques mois après ces cérémonies, que ressentez-vous aujourd'hui en visitant notre établissement ?
Écoutez, je ressens une impression qui est forte. J'arrive dans un établissement qui est terminé, ou pratiquement terminé, il y a encore des petites choses à régler. Et surtout, cet établissement est habité. Quand je suis venu la première fois, il y avait un chantier, il y avait une pollution épouvantable. Je suis venu une deuxième fois pour l'inauguration, il y avait un beau soleil, mais là, c'était pratiquement vide. Et là, maintenant, c'est un établissement qui fonctionne, avec des classes qui sont pleines, avec ici une médiathèque dans laquelle il y a un CDI, dans lequel il y a tous les livres, tout ce qu'on veut trouver si on veut se cultiver un peu en dehors de l'école. Et donc, je pense que ça fonctionne. Et je me réjouis que ça fonctionne, parce que c'est, je pense, un des plus beaux établissements qu'on puisse avoir à l'étranger. J'ai été dans beaucoup de pays, j'ai été au Japon, j'ai été en Allemagne, j'ai été en Angleterre, en Inde. Je peux vous dire que c'est certainement un des plus beaux lycées que nous ayons à l'étranger. Et donc je m'en réjouis pour vous tous, pour tous les élèves qui sont dans cet établissement.
Vous êtes en Chine depuis août 2014, et donc au contact quotidien des Chinois. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus ?
Ce qui m'impressionne, c'est que les Chinois sont un peuple qui veut aller de l'avant, qui travaille tout le temps, qui sont prêts à être curieux, à regarder ce qu'ils ne savent pas. Et c'est un peuple aussi qui veut s'insérer dans la communauté internationale. Et donc, ce à quoi nous travaillons, c'est que les Chinois, qui sont nos partenaires dans ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation, c'est-à-dire l'interdépendance des pays les uns avec les autres, tout le monde dépend l'un de l'autre, les Chinois veulent de plus en plus prendre leurs responsabilités. Et ce qui est important pour nous, et ce que je sens chez les Chinois que je rencontre, c'est qu'ils veulent être nos partenaires, c'est qu'ils veulent venir chez nous, c'est qu'ils souhaitent qu'on vienne chez eux, qu'on puisse avoir des coopérations, qu'on puisse développer un avenir en commun. C'est ça qui me frappe le plus. Ils le font dans un bon esprit et il dépend aussi de nous d'être dans ce bon esprit.
Lorsque vous étiez ambassadeur de France au Japon, vous parliez japonais et réalisez même parfois vos conférences dans cette langue. Est-ce que c'est pareil pour le chinois ?
Alors, c'est pas du tout pareil et la question n'est pas tout à fait exacte. Parce que oui, je parlais le japonais assez bien pour faire des discours en japonais, mais pouvoir parler le japonais pour faire une conférence et pouvoir répondre aux questions, c'est une autre, c'est beaucoup plus difficile. Je le fais en anglais, je le fais en allemand, je le fais en espagnol, mais le faire en japonais, non, je ne le faisais pas. Alors en chinois, j'ai appris un peu de chinois, je dis deux, trois phrases au début et à la fin, on m'applaudit, je suis content, mais surtout j'ai besoin d'un interprète. Et surtout, on a besoin aujourd'hui d'enfants franco-chinois, comme vous l'êtes, ou bien de Français qui ont appris le chinois. Mais pour ceux qui sont franco-chinois, c'est un atout énorme. Parce que vous avez deux langues d'une de grandes zones de langues, c'est-à-dire la Chine, la francophonie. Et donc sachez que c'est un atout magnifique pour construire l'avenir. Et des gens comme moi qui ne parlent pas le chinois ont vraiment besoin de ceux qui, à l'avenir, seront les ponts de compréhension entre nos pays. Voilà.
Votre parcours professionnel est lié à l'Asie depuis 1979. Date de votre première nomination à la direction d'Asie et Océanie au ministère des Affaires étrangères. D'où vient cet intérêt pour ce continent ?
Alors d'abord, je vois que vous avez très bien lu ma biographie. Mon intérêt pour ce continent, pour le continent asiatique, c'est-à-dire l'immensité qui va de l'Inde jusqu'au Japon en passant par la Chine, et puis la Corée, et l'Asie du Sud-Est, cet intérêt me vient d'un voyage que j'ai fait. Il y a très très longtemps, il y a près de 40 ans, au moins 40 ans, et où j'avais découvert, je dirais, toutes ces masses de gens avec une activité débordante, une culture immense et une envie de continuer à avancer dans la vie, de continuer à construire, de continuer à construire leur société, de continuer à apprendre, de continuer. Et tout ça sur la base d'une culture extrêmement puissante. C'était le cas en Inde. Dans une mesure qui n'est pas la même culture, évidemment, mais d'une mesure identique, c'est le cas en Chine. Quand j'étais au Japon, c'était la même chose. J'ai été impressionné par le goût des Japonais, à vouloir savoir encore plus de choses, à comprendre le monde. Et ça m'a fortement inspiré. C'est ça qui m'a déterminé à m'intéresser à cette région en me disant que le monde se construit en partenariat, y compris avec ceux qui sont le plus loin de chez nous, parce qu'on peut toujours se retrouver.
Quelles sont les principales qualités que doit posséder un ambassadeur ?
Un ambassadeur doit d'abord essayer d'écouter les autres, pour les comprendre. Une fois qu'il a essayé de comprendre, il doit expliquer ce qu'il a vu à son gouvernement. Et de la même manière, il doit pouvoir expliquer ce qui se passe dans son propre pays, au pays dans lequel il se trouve. Voilà, ça c'est la tâche d'information. Il doit représenter son pays, donc donner le meilleur aspect de son pays. Évidemment, il faut qu'il se tienne bien, il faut qu'il soit aimable avec les gens. Enfin bref, on essaye. Il faut qu'il donne, je dirais, le meilleur aspect de son pays. Il peut le faire par différents moyens, par des conférences, mais il peut le faire aussi en invitant les gens à déjeuner ou à dîner, parce que quand on a la cuisine française, on peut la présenter. Bref, il doit susciter l'intérêt de ses interlocuteurs, il doit susciter la sympathie de ses interlocuteurs, et en situation de négociation, car c'est souvent ça qu'on essaie de faire, monter des coopérations, chacun arrive avec son point de vue, avec ses intérêts, il doit être assez souple pour essayer de proposer des solutions. C'est pas lui qui va décider, c'est le gouvernement. Mais il doit dire, voilà, les possibilités, c'est celle-là, celle-là ou celle-là, voilà les options, voilà ce qu'il faut choisir, là, nos interlocuteurs ne pourront pas accepter, là, ils pourront, voilà, il doit aiguiller, faciliter, je dirais, la relation entre les pays. Voilà les qualités que doit développer un ambassadeur. Vous serez peut-être des ambassadeurs plus tard, donc c'est pour ça que je veux que vous m'écoutez attentivement.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exercice de votre fonction ?
Je ne sais pas s'il y a des choses difficiles. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. On ne peut pas se dire « je m'arrête, je me pose », parce qu'on travaille dans l'actualité. On travaille sur tous les secteurs, politiques, économiques, culturels, sur les intérêts des Français également. Bref, on est constamment obligé d'être en réaction ou en action par rapport à des sujets qui passent, y compris le samedi et le dimanche. On est très sollicité. Donc, si on a envie de se reposer, il ne faut pas être ambassadeur. Voilà, il faut faire un autre métier. Mais je dirais que ce n'est pas pénible, parce que c'est très vivant, c'est très varié, et c'est tout l'intérêt de ce métier. On voit beaucoup de monde, et on a surtout une chance énorme, c'est qu'on a accès à des gens très intéressants. C'est le cas aujourd'hui en vous parlant, n'est-ce pas?
À notre âge, c'est-à-dire à 13 ans, ouais. Étiez-vous un bon élève et quelle matière préfériez-vous?
J'étais plutôt un bon élève. J'étais un très bon élève en 6e, un moins bon élève en 5e et en 4e. Après, je me suis repris et j'aimais beaucoup les langues. J'aimais beaucoup l'allemand, notamment, et l'histoire, et aussi le latin. J'étais pas très matheux, ça a été mon regret. Mais bon, j'ai quand même fait un bac scientifique, mais c'était pas ma partie forte. Voilà, donc les langues, l'histoire.
Si vous deviez vivre seul sur une île déserte et que vous ne pouviez emporter que 3 objets, quels seraient-ils ?
J'emmènerais des livres, essentiellement. J'emmènerais un livre sur l'histoire de l'Europe, un livre sur l'histoire du monde, et peut-être un livre de réflexion, un livre de philosophie, pour essayer d'approfondir un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, quel est l'objet de notre existence. Voilà ce que j'essaierais de faire. Des objets, je ne sais pas, mais le livre en soi-même est un objet, mais un objet qu'on peut revoir sans cesse. Et d'ailleurs, j'ai souvent vu ça chez des gens qui étaient dans des prisons ou qui étaient empêchés de sortir de là où ils étaient. Le livre était leur meilleur compagnon, parce qu'ils le décortiquaient dans tous les sens et ils redécouvraient toujours quelque chose. Voilà ce que je dirais.
Alors, vous avez reçu 2 distinctions honorifiques au cours de votre carrière. Vous avez été fait officier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Mm-hmm. Qu'avez-vous ressenti lors de la remise de ces nominations ?
J'ai ressenti évidemment de la fierté. Mais j'ai ressenti aussi le fait qu'on a ces nominations, ces décorations, quand on est déjà un peu vieux. Donc de ce côté-là, je me suis dit, tu as déjà avancé en âge. C'est ça que je me suis dit. Mais puis j'ai pensé à mes parents, parce qu'après tout, c'est la reconnaissance. Ces décorations, c'est une reconnaissance du pays pour une vie professionnelle. Et je me suis dit, si je n'avais pas eu une éducation, que m'ont donné mes parents, que m'ont donné un certain nombre d'enseignants que j'ai eu dans ma vie. Vous savez, vous verrez ça plus tard. Vous direz, tiens, il y a 25 ans, 30 ans, j'étais en classe. Et j'avais tel ou tel maître qui m'a marqué. Ils vous ont pas tous marqué, mais quelques-uns oui. Et vous pensez à ces gens qui vous ont accompagné dans votre vie, qui vous ont tracé la route et grâce auxquels vous êtes là où vous êtes.
Le 2 novembre 2016, vous avez inauguré le premier lycée franco-chinois à Pékin. Quels sont les avantages que ce partenariat apporte au système éducatif français ?
Alors j'ai inauguré ce lycée franco-chinois qui est le premier du genre. En fait, il y a un lycée chinois à Pékin dans lequel on a inauguré 3 classes dans lesquelles il y a des élèves qui sont des élèves du primaire, qui vont commencer à apprendre le français dans certaines disciplines. Et l'avantage, c'est que, d'abord, ces jeunes Chinois, qui sont je dis jeunes, ils sont très jeunes, puisqu'ils sont, je crois, en CM1, CE2 et en CM1, vont entrer, comme on plonge dans une piscine, dans la langue française. Je les ai vus au bout d'un mois d'apprentissage du français. Et ils commençaient déjà à faire des phrases, ce qui était tout à fait étonnant. Je pense que c'est un signal pour l'avenir, que leurs parents aient décidé de les mettre dans ce type d'enseignement, qui va être dispensé par des maîtres français, dans un programme qui s'appelle le programme Jules Verne, qu'on met à disposition de ce lycée. Je pense que c'est un signal pour l'avenir, parce que ce sont les futurs étudiants. Au départ, ils sont d'une famille chinoise, ils n'ont aucune idée du français. Ils vont apprendre le français, ils vont continuer leurs études, ils iront sans doute en université, dans un département de français en Chine, ils demanderont à venir en France, et peut-être que ce seront les cadres et les dirigeants de nos entreprises franco-chinoises dans l'avenir. Donc, quand on fait ça, quand on rentre dans ce système, eh bien, on prépare l'avenir, on ouvre le chemin pour l'avenir. C'est ça qui est très très intéressant pour moi.
Y a-t-il des actions de grande envergure prévues pour continuer de promouvoir l'attrait de la France et du français en Chine ?
Il y a donc ce lycée franco-chinois à Pékin, donc le premier exemple. Il y a également ce qu'on appelle les instituts franco-chinois, qui sont des instituts qui sont des instituts dans lesquels il y a des étudiants français et des étudiants chinois qui partagent des programmes. Et donc il y en a maintenant, il y a 8 instituts franco-chinois, donc c'est aussi l'avenir. Il y a le mois de la francophonie, qui chaque année nous amène à parler du français en France, mais aussi du français dans la zone francophone, c'est-à-dire sur tous les continents. Vous savez qu'il y a 80 pays qui ont le français comme langue officielle ou qui sont membres observateurs de la francophonie. Et le dernier sommet vient de se tenir à Madagascar. Le président de la République en revient, là, juste. Nous avons également, pour le français, nous avons, c'est pas directement le français, mais nous avons l'aide à la traduction pour faire connaître notre pensée. Il y a la langue française, mais il y a la pensée française, la culture française. Bref, il y a une série d'initiatives comme ça qui permettent de mettre en valeur la langue française, la francophonie, la culture française.
Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu au micro de la web radio LFP Line. Au revoir.
Au revoir, et merci beaucoup de votre accueil. Et continuez bien à travailler.
Merci.